Des poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Jean Asfeld, bonsoir, je vous remercie.
Bonsoir.
Je vous remercie de nous accorder cet entretien. Dans une autre vie, vous étiez journaliste. Aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs années, vous êtes écrivain. Votre œuvre est comme hantée par le Rwanda, où vous êtes arrivé comme journaliste juste après le génocide. Alors, sur le sujet, vous avez écrit « Dans le nu de la vie », une saison de machette, une saison de machette, la stratégie des antilopes. Et on se rencontre ce soir pour échanger autour de votre dernier ouvrage, Un papa de sang, paru chez Gallimard à la fin de l'été. Donc ce livre s'attache cette fois plus particulièrement à donner la parole aux enfants des victimes et des coupables du génocide. Non pas qu'ils aient été eux-mêmes demandeurs d'expression, c'est bien vous qui êtes allés les chercher pour recueillir leurs paroles. Vous avez souhaité les accompagner pour qu'ils nous livrent également leur témoignage sur ce que ça veut dire d'être enfant de victime ou enfant de coupable au Rwanda, sur ce qu'est leur quotidien maintenant que 20 ans ont passé. Alors évidemment, ma première question, c'est pourquoi ? Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de faire cette démarche, de faire témoigner ces tout jeunes adultes, hein ? Certains sont encore même adolescents.
C'était une démarche un petit peu évidente, si je puis dire. C'est un peu naturel, puisque ces enfants, je les ai vus grandir, finalement. Ça fait maintenant 16-17 ans que je vais toujours dans ce village. J'ai travaillé sur les précédents livres que vous avez cités. Et je voyais bien dans les environs, dans la cour, les collines, etc., je voyais ces enfants grandir. Et je me posais quand même la question, même si ce n'était pas formulé aussi clairement, mais je me demandais quand même qu'est-ce que ça voulait dire de vivre avec ça sur les épaules. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont entre 16 et 23 ans dans mon livre. Donc je n'ai pas voulu parler avec des enfants directement. Je me méfie beaucoup des enfants. Enfin, je ne me méfie pas des enfants, mais je me méfie beaucoup des récits d'enfants. Je pense qu'ils vivent dans un monde à eux qui n'est pas très abordable par un adulte et par un adulte écrivain ou journaliste. On l'a vu avec beaucoup d'histoires d'enfants soldats qui étaient quand même très manipulatrices ou manipulées. Donc j'ai attendu que ces jeunes, ces enfants que je voyais grandir, aient l'âge de l'adolescence finalement, pour aller finalement leur poser une question assez simple qui est comment on vit avec cela. C'est-à-dire, ils n'ont pas vu le sang des machettes. Ils sont nés plutôt après, à une ou deux exceptions, mais même quand ils étaient tout petits, ils ne se rappellent pas. Mais sans avoir vu le sang des machettes, ils ont vu que le papa était en prison, que le papa a été tué, que la maman s'effondrait en larmes. Et puis ils ont aussi, sur le chemin de l'école, reçu des crachats parce qu'ils étaient le fils de je ne sais pas qui, ou ils ont entendu un voisin qui parlait. Donc ils ont grandi avec cela, l'enfance, puis l'adolescence. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça voulait dire. En fait, j'ai fait à peu près la même chose que j'avais fait avec leurs parents, c'est-à-dire ne pas leur demander qu'est-ce qu'ils avaient vécu, mais qu'est-ce que ça voulait dire que vivre avec ça quand on a traversé cette expérience, quoi. Comment on en sort transformé, qu'est-ce que ça modifie chez vous comme manière de penser par rapport à vos... Notamment... Ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs. Il y avait beaucoup de choses qui m'ont surpris chez ces jeunes, mais notamment par rapport aux autres jeunes. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement savoir qu'est-ce que ça voulait dire de vivre avec ce papa-là ou avec cette maman-là, ce qui est déjà une très grande question, parce que ce papa, il a tué à s'en casser les bras, mais il vous a quand même donné le don le plus précieux qui existe au monde, c'est celui de la vie. Cette maman, elle ne veut pas vous répondre, elle ne parle pas, elle ment toute la journée, chaque fois qu'on lui pose des questions, mais c'est votre maman, et elle vous accompagne sur la parcelle, et elle vous nourrit. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Et puis, qu'est-ce que ça voulait dire comment on vit avec d'autres jeunes de son âge qui sont, par exemple, de l'autre ethnie? C'est-à-dire, on se retrouve à l'école, on se retrouve à la paroisse, on se retrouve à la chorale, dans l'équipe de foot, et on se retrouve à quelqu'un de l'autre ethnie. Et là, ils m'ont beaucoup surpris, beaucoup surpris, parce que j'imaginais que les jeunes, un peu benoîtement, un peu bêtement, j'imaginais que les jeunes avaient quand même plus de facilité que cela, du fait qu'ils n'avaient pas été responsables de rien, ni même témoins directs de rien, qu'ils auraient plus de facilité à aller les uns vers les autres, c'est-à-dire à dire, bon, les parents, c'est les parents, mais nous, on est jeunes, et tout ça. Et en fait, le gouffre qui existe entre eux est beaucoup plus profond que j'avais imaginé. Ils participent à beaucoup d'activités ensemble, ils se côtoient sur le chemin de l'école, et il n'y a pas de problème dans les classes, il n'y a pas de problème pour jouer au foot, mais je n'ai pas rencontré un jeune qui soit allé vers un autre jeune du même âge, de l'autre ethnie, pour lui dire, écoute, Sandra, je sais que ton papa a été tué en 94, est-ce que tu veux qu'on en parle? Ou Fabiola, je sais que ton papa est en prison depuis 1996, est-ce que tu veux qu'on en parle? Ça n'est jamais arrivé, jamais arrivé. De même que je n'ai jamais rencontré, à part la petite Sandra, la jeune Sandra qui est assez malicieuse, mais je n'ai jamais rencontré un jeune qui puisse envisager une histoire d'amour avec quelqu'un de l'autre ethnie. Et l'amour, quand même, à cet âge-là, c'est quand même très, très, très important. Et quand ils disent, non, ça, on ne peut pas l'envisager, on ne peut pas l'imaginer, pour différentes raisons, soit parce qu'on a peur, soit parce que ça ferait trop de peine aux parents, soit parce que ça ne serait pas accepté par les familles, soit pour des raisons X ou Y, Sandra fait l'exception, parce que Sandra, elle dit, si jamais l'amour se glissait... Peut-être que je ne l'abandonnerai pas, mais oui. Dans l'anonymat, peut-être que je ne l'abandonnerai pas. Ce qui voulait dire, si je découvrais après coup que mon amant est Hutu, peut-être que je ne l'abandonnerai pas. Mais c'est la seule qui dit
ça. Elle dit, j'écouterai les deux parties. Hein. C'est elle qui dit, ouais. Qui dit ça. J'écouterai ma mère, j'écouterai mon amoureux, quoi, ouais. mon mari. C'est... J'écouterai les deux parties.
J'écouterai les deux parties. Alors, il y a beaucoup de... Il y a aussi qu'on est en Afrique, donc il y a beaucoup plus de respect... familiale, sur qu'est-ce que le rôle des parents, l'autorité parentale, le rôle de la maman dans les histoires de mariage, etc., qui n'existe plus chez nous, qui explique aussi beaucoup pourquoi il y en a qui disent « je ne pourrais pas faire ça à mes parents parce que ça serait manquer de respect ». On ne dirait plus chez nous ça, on dirait bon, « les parents, ils feront avec ce que je leur proposerai ». Mais il y a quand même beaucoup qui disent qu'ils n'envisagent pas une histoire d'amour parce qu'il y aurait de la méfiance et de la peur. Quoi. Et ça, j'avais pas envisagé ça.
Ce qui est très intéressant dans votre démarche, c'est votre approche du recueil de témoignages qui, sous votre plume, ne reste pas justement qu'un simple recueil de témoignages. Et il devient une sorte de récit de vie au pluriel, le récit de la vie au Rwanda, une sorte de miroir un peu transgénérationnel finalement. Vous parvenez à faire en sorte que les individualités de ces jeunes adultes soient comme transcendées, j'ai pas trouvé d'autres mots, pour finalement parler de la société rwandaise dans sa globalité. Au travers du récit de ces quelques jeunes résidant dans la ville de Nyamata, vous embrassez le Rwanda dans son entier. On en vient, alors moi j'en suis venue à faire ce constat effrayant que les Hutus, donc restent les Hutus, les Tutsis restent les Tutsis, hein, c'est ce que vous nous disiez, malgré tout ce qui a été entrepris pour réconcilier les populations, le clivage ethnique subsiste, la division est latente, on a le sentiment que l'équilibre est vraiment très fragile et que ça peut exploser à nouveau. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous croyez, vous, au bienfait de la politique de réconciliation? Est-ce que vous avez confiance pour l'avenir du Rwanda?
Je ne sais pas trop quoi penser. Je suis mal à l'aise pour répondre parce que on est mal placé, nous, les Blancs et les Français, quoi. Donc, je ne suis pas très inquiet. Je ne suis pas très inquiet parce que je pense qu'il y a trop de regards à l'extérieur. Et puis, l'idée de l'extermination est une idée qui ne germe pas deux fois au même endroit. C'est pas envisageable, quoi. C'est une idée quand même assez surréaliste qui ne repose sur aucune consistance intellectuelle, sur aucune consistance historique suffisamment forte pour pouvoir regermer. C'est une explosion à un moment donné. Donc je ne suis pas très inquiet. Par contre, je suis d'accord avec vous sur le fait que le clivage ne le change pas et que le pardon n'est pas possible. Ça, c'est quand Francine, à un moment, dit on peut pardonner à un homme qui balance son épouse du troisième étage sous la colère, on ne peut pas pardonner à quelqu'un qui tue tous les jours de la semaine, même le dimanche. Donc ça, l'idée de cette tuerie à froid, c'est-à-dire sans haine très, très exprimée, sans explosion de violence, c'est une tuerie comme ça, très bien organisée, préméditée, exactement comme celle des Juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est très bien managé, c'est rentabilisé, etc. Puisque quand même tuer 900 000 personnes en 3 mois à la machette, c'est quand même un exploit physique que personne n'est arrivé à égaler jusqu'à présent. Même la machine nazie n'était pas arrivée à tuer 900 000 Juifs en 3 mois en 1942, qui est l'année la plus meurtrière. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et qui fait que on ne peut pas, du point de vue du rescapé, envisager le pardon. Ce n'est pas possible. C'est d'autant moins envisageable que le pardon, ça passe par la vérité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager de pardonner, sauf si c'est d'une manière religieuse, mais ça c'est un autre pardon. Mais on ne peut pas envisager le pardon si la personne en face ne vient pas, non seulement vous le demander, mais aussi vous parler. C'est-à-dire que ça passe par la vérité. Or, ce n'est pas possible en ce moment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager, pour des tas de raisons, que des familles Hutus, que des hommes ou des femmes Hutus qui ont trempé dans les tueries avec leurs machettes, viennent et disent, voilà, Francine, je viens te voir, c'est moi qui ai tué ton frère, voilà, je voudrais en parler avec toi. Ce n'est pas possible. Donc, puisque ça, ce n'est pas possible que Francine dise, je vais te pardonner, parce que le pardon passe quand même par la vérité. Quand la vérité n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Et puis, il y a une autre raison aussi, qui est qu'il y a plusieurs formes de pardon. Il y a le pardon de l'État. C'est l'État qui pardonne, qui libère les prisonniers. Il y a le pardon religieux qui est extrêmement pratique, en tout cas chez les chrétiens, puisque c'est tu pardonneras ton prochain, etc. Donc, qu'est-ce que font les tueurs en fait ? Ils disent, bon, il y a 3 pardons sur Terre. Il y a celui de l'État, c'est acquis. Il y a celui de la religion, c'est acquis. Il y a celui du voisin, c'est pas acquis. Mais voilà, il y en a 2 sur 3, c'est pas mal déjà. Ça me suffit. Et donc, il n'y a pas cet effort... qui est difficile, par ailleurs, c'est difficile, mais il n'y a pas cet effort fait de la part des tueurs d'aller vers les victimes. Donc, il y a d'autant plus de refus de la part des victimes de pardonner. Et quand il n'y a pas pardon, il ne peut pas y avoir réconciliation. On peut cohabiter. La cohabitation, c'est tout à fait autre chose. Si vous allez pendant 3-4 jours à Nyamata, vous allez voir que les gens vivent très bien ensemble. Ils descendent ensemble au marché, ils négocient, au dispensaire, les dames arrivent avec leurs bébés malades, les médecins les soignent, etc. Puis on se retrouve le samedi pour le match de foot. Il y a, et même dans les cabarets, mais la cohabitation, c'est une chose, la réconciliation, c'est une autre chose. C'est tout à fait différent. Et la cohabitation, la réconciliation n'est pas envisageable pour l'instant. Ce qui n'est pas forcément source de risque. Parce que, comme je disais, c'est quand même trop mystérieux ce génocide pour qu'on puisse envisager quelque chose, un événement que ressurgisse, une irruption aussi surréaliste que cela, aussi irraisonnée que celle-là. Donc, il n'y a pas vraiment de souci ou d'inquiétude concernant la probabilité de nouvelles tueries, mais il y a beaucoup de soucis sur qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que va être la vie de ces gens-là dorénavant. C'est-à-dire que ceux qui sortent, qui ont vécu les tueries, sont vraiment abîmés de part et d'autre, et leurs enfants, on aperçoit, sont aussi abîmés. Et quand on demande aux enfants, et vous, quoi est-ce que vous allez faire en tant que parents quand vous aurez des enfants ? Et ils sont très très différents les uns des autres. C'est-à-dire que grosso modo, en caricaturant un peu, les enfants Tutsi disent, je dirais tout à mes enfants, je veux qu'ils sachent tout. Et les enfants Hutus disent, non, je ne veux pas mêler mes enfants à ça, c'est une sale histoire, je vais leur épargner ça. C'est-à-dire qu'on envisage encore que, déjà pour cette génération, c'est le cas, mais pour l'autre génération qui est suivante, il y aura des histoires familiales très différentes. C'est-à-dire ils ne partageront pas la même histoire de leur pays, ce qui quand même crée des divisions, des malaises, des incompréhensions, des suspicions, des méfiances, etc. C'est inévitable.
D'un point de vue littéraire, vous avez réalisé encore un très bel ouvrage où la langue française montre, comme rarement, sa richesse et sa diversité. On lit. On entend le français parler dans des bouches rwandaises et c'est simplement magnifique. C'était vraiment un pur plaisir de lire ce français-là, ce français de là-bas. En pratique, comment vous y êtes-vous pris pour transcrire les paroles ? Comment se déroulaient les entretiens ? comment est-ce que vous avez choisi ce que vous alliez conserver ou pas, couper, hein, on sent un travail de montage sur ce livre, de construction du récit, et là encore là-dessus, on n'est pas sur un simple recueil de témoignages.
Alors, en préambule, je dirais que s'il n'y avait pas ce plaisir, j'aurais abandonné depuis longtemps. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu dire peut-être au lendemain du premier ou deuxième livre, mais que je veux dire maintenant. Il y a un énorme plaisir pour moi à travailler ces livres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de dévouement, il y a un énorme plaisir. C'est une langue magnifique, c'est une langue métaphorique, très imagée, très dense aussi, alors qu'elle est dense à la fois parce que c'est un français qui a été souvent enseigné par des jésuites ou des pères blancs d'une manière très précise, un peu à l'ancienne, mais enfin avec une grammaire et un vocabulaire très précis, à la fois qui est matiné par des belgistes, parce qu'il y a le poids de la colonisation belge, qui a été aussi qui est influencé par le temps, parce qu'il y a beaucoup d'expressions et notamment de noms qui sont presque 19e siècle, qui sont d'un grand classicisme. Donc il y a un énorme plaisir d'écriture. Alors comment j'ai fait ? C'est assez simple. D'abord, priorité absolue en toute chose au livre. Le livre passe avant les personnages, avant les personnels même, avant moi-même, avant le lecteur, avant tout, c'est priorité au livre. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être faites au nom du livre, pour le livre, au détriment des gens. C'est, par exemple, pour le premier livre, j'avais l'équivalent de 40 livres, je crois, 39 livres de retranscription qui ont donné qu'un livre. Donc, il y a 39 quarantièmes qui ont été éliminés. Ils ont été éliminés parce que je pensais que c'était de trop dans le livre. Donc, concrètement, comment je fais ? J'ai beaucoup de questions en amont. Je travaille beaucoup en amont, essentiellement à partir de récits de la Shoah, de livres sur la Shoah, qui me sert de référence. Donc j'ai lu beaucoup de livres sur les rescapés, beaucoup de livres sur les tueurs, beaucoup de livres, et j'ai des questions. J'arrive, je vois les personnes, donc c'est des personnes que je vois individuellement. Ça s'est passé un peu très différemment au niveau de l'ambiance et du rythme, selon les livres, mais finalement le principe est à peu près le même. On aborde un thème et on discute de ce thème. Donc je dis aujourd'hui on va parler de la mort, ou aujourd'hui on va parler de Dieu, ou aujourd'hui on va parler du papa, etc. Et on parle de ça, et on parle de bien d'autres choses aussi, parce qu'on ne peut pas non plus toujours parler avec ça. Et je reviens chez moi, donc ce sont des allers-retours, des va-et-vient entre Nyamata, toujours le même endroit, toujours les mêmes personnes. C'est, là aussi, je ne suis pas allé dans un village d'à côté, je n'ai pas changé de personnage, il y a eu 14 personnes pour le premier livre, 10 pour le deuxième, et les enfants sont les enfants de ces 24 personnes. Enfin, il n'y en a que 9, mais ce sont les enfants directement. Et donc, je reviens à Paris, je retranscris tout, les onomatopées, les digressions, tout est retranscrit, je relis, je m'aperçois très souvent que je n'ai pas entendu ce qu'on m'a dit sur le moment, ou je vois que une réponse d'une personne peut susciter une question à poser aux autres, ou que je n'ai pas bien compris, etc. Et donc, ça reformule de nouvelles questions qui vont être l'objet de nouveaux entretiens lors du séjour suivant. Donc il y a beaucoup d'allers-retours comme ça. C'est des séjours entre 1 et 3 mois. Je retranscris et à un moment donné, c'est en cours de route parce que c'est pas forcément à la fin, se pose la question de la construction du livre qui va être différente selon les livres. Bon, dans le nu de la vie, c'était plus des monologues, parce que je respectais un peu la personnalité des rescapés. Dans Une saison de machette, c'est beaucoup plus haché par thème, parce que je voulais les couper, comme eux, ils avaient coupé. Pour les enfants, c'est construit un peu en 3 parties, un petit peu le passé, le devenir, et au milieu, il y a les parents. C'est intercalé par beaucoup de textes de moi, de descriptions, qui sont là un peu pour laisser reposer le lecteur, ou pour resituer dans quelles circonstances parle la personne, c'est-à-dire faire un petit peu des portraits, ou dire dans quelles circonstances je les ai interrogés, ou comment ils se comportaient. Et puis, pour le dernier livre, ça m'a beaucoup amusé d'ailleurs, donner des nouvelles des gens des précédents livres, en disant, tiens, au marché, j'ai croisé Pio et sa fiancée Sylviane, ou à la sortie de l'église, j'ai vu Sylvie, etc. Donc je donne des nouvelles des autres livres, mais ça me permet juste de faire un peu des liens entre ces jeunes et leurs parents. Et voilà. Et donc, après, j'enlève. Voilà. Vous avez tout à fait bien trouvé l'expression. L'expression est tout à fait bonne, pardon. C'est du montage. Beaucoup de montage. C'est-à-dire que j'essaye de mettre en résonance les uns et les autres pour que ce que dit, à un moment donné, Ildefonso résonne avec ce que va dire son frère ou avec ce que va dire une fille de l'autre ethnie, Sandra, à un autre moment du livre. Donc, ce sont des résonances. J'essaye de créer quelque chose qui fasse un peu teinter des petites clochettes intérieures chez le lecteur. C'est-à-dire que le lecteur, je n'ai pas à l'informer, puisqu'il sait, ou c'est trop tard pour savoir, de ce qui s'est passé en 1994, de ce qui se passe aujourd'hui en 2014. J'essaye, moi, de créer un univers, une espèce d'univers qui est celui du génocide, de l'extermination, où j'essaye d'emmener, en prenant par la main, le lecteur et lui dire, voilà, l'atmosphère c'est ça, le paysage c'est ça, le décor c'est ça, et les personnes que tu vas rencontrer, c'est celle-ci, c'est celle-là, c'est voilà. Tu vas rencontrer Sandra, tu vas rencontrer Ildefonso, tu vas rencontrer Jean-Pierre, tu vas rencontrer, et vous allez faire affaire ou pas. C'est-à-dire que la rencontre va avoir lieu, c'est un peu le principe de tous les grands romans, enfin de tous les romans, c'est-à-dire que, voilà, on fait affaire avec Cosette, ou on ne fait pas affaire avec Cosette, avec Madame Bovary, on fait affaire ou on ne fait pas affaire, enfin c'est, à un moment donné, la rencontre se crée entre le personnage, parce que ces personnes bien réelles de la colline deviennent des personnages du livre, même si, voilà, c'est... Et, voilà, vous allez être sensibilisé, vous allez établir une relation, ou pas, avec ces personnages, c'est mon travail. Donc, c'est pour ça que je dis que la priorité, c'est le livre, c'est la construction, c'est une injustice extraordinaire, parce que quelquefois, je pose une question à Francine, et Francine répond quelque chose de magnifique, mais je l'enlèverai parce que, juste avant, il y aura Jeannette qui aura dit ça, et que si je garde pour les deux, ça va être redondant. Donc, j'enlève pour Francine. Ça se fait au détriment un peu de quelque chose d'important, puisque Francine l'a dit, qu'elle n'y peut rien si elle arrive dans le livre derrière Jeannette. Mais c'est comme ça, c'est le livre qui prime, c'est le livre en priorité.
Ce livre, justement, est touchant, percutant, remuant, effrayant. Les jeunes qui s'expriment en tant qu'enfants de coupables ou de victimes. Ça semble plus simple pour les enfants de victimes que pour les enfants de coupables, qui eux, en tout cas, portent le poids. Hein, mais ils se sentent avant tout enfants de leurs parents, qu'ils soient victimes ou bourreaux. Il y a le témoignage de Jean Damasène Ndayambaj. J'espère que je l'ai bien prononcé, âgé de 16 ans et qui lui, l'exprime avec force. Je vais lire un passage très 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 vite. Il commence comme ça son témoignage. Il dit « C'est une malchance d'être fils d'un tueur de génocide. Difficile à expliquer, même à soi. Le papa, c'est le mien. Je l'aime plus que personne d'autre. Ça se comprend. » Voilà, et un petit peu plus loin, il continue à émailler comme ça son témoignage de choses quand même très dures, hein, quand on s'y penche un petit peu. Moi, je me posais cette question, où est-ce que vous avez trouvé la ressource pour entendre tout ça depuis toutes ces années de travail sur cette histoire particulièrement dramatique? Qu'est-ce que ça fait résonner chez vous? Qui êtes-vous, vous, dans ce Rwanda que vous ne cessez de décortiquer? Alors, pardon si mes questions sont un peu personnelles, vous êtes libre de ne pas y répondre. Je me permets quand même de les poser parce que vous y êtes dans le livre, justement, dans les passages que vous évoquez, quand vous décrivez, par exemple, le marché, ce genre de choses, vous y êtes vraiment très présent, finalement. Vous pouvez vous exprimer un petit peu là-dessus?
Alors, ça a changé avec le temps. J'y vais comme journaliste. Je suis un des X centaines de journalistes qui arrivent là-bas. Moi, j'arrive un petit peu à la fin des tueries, parce qu'au moment des tueries, j'étais en Bosnie. Et je fais mon travail de journaliste. Au retour du journaliste, je suis un petit peu choqué par notre échec collectif et notre impuissance et notre incapacité à affronter cet événement du génocide. En particulier parce qu'on était trop habitué à la guerre et que la guerre, c'est une autre logique, une autre manière de penser. Et donc, pour faire court, à un moment donné, je décide d'y retourner, non plus comme journaliste, mais pour essayer de faire un récit sur un sujet très très particulier, qui m'a beaucoup ému, qui est celui de l'effacement du rescapé. Pourquoi un rescapé s'efface? Pourquoi il se tait? Pourquoi il disparaît de la circulation? Pourquoi il disparaît de l'histoire? Pourquoi il a disparu de nos reportages? Etc. Donc c'est la seule idée préméditée que j'ai, et je pense en avoir fini après cela. Donc je travaille pendant 2 ans sur cette idée, et j'ai fait le premier livre, c'est-à-dire donc je commence à sillonner le Rwanda, et puis je m'installe à la suite d'une rencontre avec une jeune femme dans ce village. Je travaille pendant 2 ans avec 14 rescapés, ça donne ce livre, et pour moi l'affaire est finie. Et puis c'est pas fini. C'est-à-dire que après, quand même, j'ai du mal à quitter cette histoire, donc j'y retourne. Il y a l'idée d'aller voir les tueurs, je vais les tuer comme ça. Et en fait, je n'ai jamais pensé faire tout ça. C'est-à-dire que j'ai jamais pensé à un moment donné, tiens, maintenant tu vas consacrer 15, 20 ans de ta vie à faire ça, et tu vas faire ça un livre. Il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième, celui qui a englobé à des collines, est arrivé un peu par hasard. Les jeunes, effectivement, comme je disais tout au début, effectivement, les jeunes, les voyant grandir, je me disais bien qu'un jour, j'irais leur poser la question de qu'est-ce que ça veut dire que vivre avec tout ça. Justement, il y en a quelques-uns que je connaissais bien. Mais voilà. Alors après, comment je fais pour supporter ça? C'est très facile, c'est pas compliqué pour moi. Voilà, c'est quelquefois l'histoire est pas très terrifiante, et l'histoire est plus dégoûtante qu'autre chose. C'est plus le dégoût qui quelquefois m'en écarte, parce que c'est dégoûtant de voir des gens abîmés, de voir des gens mentir. Il y a beaucoup de mensonges de part et d'autre, beaucoup de silence, beaucoup de gêne, beaucoup de rancœur, beaucoup de choses comme ça. Ça, c'est assez dégoûtant, donc quelquefois, il faut arrêter. C'est pour ça que je fais beaucoup d'allers-retours. Je ne reste jamais très longtemps, je ne reste jamais plus de 3 mois, en général, c'est plutôt 2 mois. Je reviens à Paris, puis j'écris d'autres livres, je fais d'autres travaux, etc. Ça ne m'a pas beaucoup plus... bouleversé que cela, enfin bousculé que cela, mais je le dis parce qu'il y a quand même le fait que je fais quelque chose de cette histoire. Si je ne faisais rien, si j'étais, je ne sais pas moi, plombier là-bas et juste à réparer les plomberies des canalisations de la Grand-Rue, peut-être que j'aurais beaucoup plus de mal à supporter tout ça. Mais le fait de transformer en premier livre, un deuxième livre, de rencontrer des gens, d'aller dans les lycées, etc., fait que... Et qu'il y a ce plaisir énorme de la langue, ce plaisir des paysages. J'ai un plaisir incroyable à voir. C'est fascinant, ces marais. C'est une étendue sans fin de nénuphars. L'histoire est fascinante parce qu'on sait qu'au fond des marais, il y a 50 000 morts, il y a les fantômes, enfin, tout ça. Donc tout ça est assez fascinant. Donc ça permet de continuer. On continue et c'est pour ça que je commençais en disant que ça a beaucoup changé avec le temps. C'est créer quand même une familiarité. Il y a une familiarité de moi avec les gens, parce que je les connais depuis maintenant un bout de temps. On a quand même bu beaucoup de bière ensemble. Il y a des dames chez qui j'habite, etc. Bon, il y a une familiarité de moi par rapport à eux. C'est-à-dire qu'eux, ils me voient, et au début, ils étaient un peu méfiants, par rapport à ce blanc, j'étais le seul blanc de toute la région, maintenant, voilà, ils me voient avec ma petite camionnette et tout ça, la familiarité avec les jeunes qui a permis le livre, la familiarité avec l'histoire, c'est-à-dire que je m'habitue à cette histoire, le temps qui passe, les gens qui changent, les gens qui vieillissent, qui changent d'habits, les souvenirs qui se modifient, tout ça fait que... Non, c'est pas très compliqué, ça se fait. Enfin, j'ai été secoué au départ par cette histoire. J'étais un journaliste de guerre, j'étais pas prêt à affronter un génocide. Voilà, j'étais pas prêt psychologiquement, comme tous mes collègues d'ailleurs. On avait vécu le Liban et la Bosnie, donc on est habitué à quelque chose. On découvre quelque chose de totalement différent, qui est l'extermination. C'est pas des combats, c'est pas, voilà, il y a pas de place pour la vie. Il y a eu pas de place pour la vie. À la guerre, il y a toujours de la place pour la vie. La guerre, c'est un sujet éminemment romanesque. Parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup de relations entre les gens. C'est très très vivant une guerre. Même si les dommages sont considérables et même si il y en a aucune qui est justifiée, la guerre c'est quand même quelque chose qui explique d'ailleurs pourquoi quelquefois il peut y avoir des sentiments de nostalgie sur la guerre. Mmh. Moi j'ai bien vu à Beyrouth comme à Sarajevo et on le voit bien aussi par rapport à nos parents pour la Deuxième Guerre mondiale. Ça, il y a des nostalgies non pas sur l'idée de combattre et d'entendre des armes à feu, mais de s'être révélé d'une manière différente, d'avoir vécu quelque chose qui sortait un peu de la routine, d'avoir pu s'exprimer par son courage, par son imagination, ce qu'on n'aurait pas pu faire peut-être en temps normal, notamment si on a un destin qui est un petit peu banalisé, etc. Donc il peut y avoir quelquefois un peu de nostalgie. Et d'ailleurs, il y a souvent des dépressions d'après-guerre. On voit beaucoup de gens de déprime d'après-guerre. On l'a vu beaucoup à Sarajevo, ce qui n'est absolument pas le cas au Rwanda. Il n'y a aucune nostalgie de quoi que ce soit. Enfin, il n'y a rien de romanesque, il n'y a pas d'histoire. Enfin, donc on a été secoué par ça. Et après, donc c'était motivant pour moi, démotivant pour d'autres. Moi, je connais beaucoup de confrères et de consoeurs qui ont été tellement choqués par l'histoire du Rwanda qu'ils n'ont, au contraire, ils ont eu l'attitude inverse. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus jamais voulu en entendre parler. Voilà, jamais retourné, jamais. Ils ne s'intéressent pas à ce que je fais. Parce que, voilà, un photographe m'a dit une fois, j'ai vu le mal au bout de mon objectif et je ne veux plus revoir ça, alors que c'est un grand photographe de guerre, etc. Voilà. Donc il peut y avoir la réaction inverse. Moi, au contraire, je me suis lancé dedans.
Je vous remercie beaucoup, Jean-Raspel, pour cet entretien autour de Un papa de sang, paru chez Gallimard fin août 2015.
C'était l'interview des poches sous les yeux en partenariat avec la boîte à livres. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessousles yeux.fr ou encore la page Facebook des poches sous les yeux.